Il est midi et demi.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Elisabeth Martichoux, Laurent Bazin.
Bonjour et bienvenue dans ce RTL Midi. Vous pouvez, comme tous les jours, dès à présent, appeler le 3210 pour réagir à l'actualité. Vous aurez évidemment la parole à partir de 13h. Trois banques françaises prises dans la tourmente grecque, elles sont mises sous surveillance par l'agence Moody's parce qu'elles ont prêté près de 10 milliards précisément à la Grèce et qu'on ne sait pas si la Grèce saura rembourser. À l'instant, le gouvernement assure cependant qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir, mais la bourse pique légèrement du nez.
Bonjour à tous. La Grèce, justement, paralysée encore par des grèves et des manifestations aujourd'hui pour protester contre l'énième plan d'austérité qui va être imposé à la population. Les Grecs n'en peuvent plus. De plus en plus méfiants à l'égard de leur gouvernement. Nous serons sur place dans un instant.
Des apprentis dès 15 ans. Proposition d'un député UMP qui reprend une idée déjà avancée en 2005. C'était dès 14 ans en 2005. Est-ce que c'est trop tôt pour apprendre un métier? Faut-il à tout prix aller à l'école jusqu'à 16 ans? On en parlera avec le directeur des maisons familiales rurales qui forme précisément des jeunes en apprentissage ou en alternance. Il sera notre invité à 12h50.
Également la une ce mercredi, l'ancien juge Bruguière visé par une plainte des familles de victimes de l'attentat de Karachi. Haro sur ces charlatans tout genre qui prétendent vous guérir du cancer par des faux remèdes.
Le retour timide des jeunes médecins généralistes à la campagne. 1 sur 4 tout de même retrouve le chemin des champs à sa sortie de la fac. La rumeur Leonardo au PSG, l'entraîneur de l'Inter de Milan, serait en contact avec le club parisien et son chéquier en or. Et puis c'est lune rouge ce soir, visible à l'œil nu vers 22h.
Le ciel tout de suite avec vous Louis Baudin. Une petite journée de répit, c'est pas mal aujourd'hui.
Oui, c'est pas mal, mais enfin pour ce soir, c'est vrai que dans la moitié nord, on aura quand même du mal à la voir cette lune rouge. Hein, ça sera beaucoup mieux dans le sud, hein, pour ceux qui y tiennent. Pensez à descendre vers le sud de la Loire, vous aurez plus de chance. Alors donc cet après-midi, on attend une nouvelle perturbation dans le nord-ouest, pour ça qu'on parle de petit répit. Hein. Déjà quelques pluies sur la Bretagne, ces pluies qui devraient progresser cet après-midi vers les Pays de la Loire ou encore la Normandie. Puis un petit peu plus tard, vers la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France, ça sera pour la fin de journée. Avant cela, donc, dans la moitié est, dans le sud, on aura un temps sec avec quelques belles éclaircies, plus belles vers la Méditerranée. Puis un petit risque d'averse en montagne sur les Vosges, le Jura ou encore les Alpes. Même les Pyrénées. Tout cela avec des températures en revanche largement de saison. Pas moins de 18 degrés à Brest, 19 à Cherbourg, 21 à Rennes, puis après ça monte vite. 22 à Nantes et La Rochelle, 23 à Lille, 25 à Reims, Paris, Tours, Nancy ou encore Strasbourg, 26 à Bourges, Metz, Mulhouse, Besançon et Ajaccio, 27 à Clermont-Ferrand, 28 à Lyon et Bordeaux, 29 à Grenoble et Marseille, 30 degrés à Agen et Nîmes. Et 31 même à Toulouse.
Merci Louis, on verra si ça dure, mais a priori non, hein. C'est en alternance ça.
Exactement.
Aussi.
Exactement.
À tout à l'heure.
Professionnels, gagnez en performance avec EDF Pro. Pour bénéficier de solutions simples, efficaces et économes en matière d'énergie, rendez-vous sur edfpro.fr.
RTL Midi.
Elisabeth Martichoux, Laurent Bazin.
Une des questions du jour, jusqu'où ira l'onde de choc de la crise grecque? On apprend ce matin que trois grandes banques françaises, Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas, vont être sanctionnées par l'agence Moody's pour s'être trop exposées en Grèce. Autrement dit, elles ont racheté trop de dettes à Athènes en quasi-faillite et se retrouvent maintenant fragilisées par cette mauvaise note que l'agence s'apprête à leur attribuer. Leur cours en bourse a immédiatement chuté ce matin. Pas de panique, vient de dire le gouvernement, on y reviendra. Mais Philippe Racontencin, est-ce que ces banques ont été imprudentes?
En tout cas, elles sont sous surveillance et on verra dans 3 mois si leur note est dégradée. Alors la réalité, c'est que BNP Paribas a pour 5 milliards d'euros de dettes grecques dans son portefeuille, sous forme de bons du trésor émis par l'État grec. La Société Générale, moins de 2 milliards et demi, et le Crédit Agricole, 631 millions d'euros. Alors on parle bien de la dette publique, pas de la dette des particuliers, des entreprises en Grèce. BNP Paribas, par exemple, n'est pas engagé dans la banque de détail en Grèce, alors que le Crédit Agricole, par l'intermédiaire de la banque Emporiki, est exposé à hauteur de 21 milliards d'euros. Malgré cela, hier, le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, soulignait que les banques françaises sont tout à fait capables d'absorber une éventuelle décote de leur notation par Moody's parce qu'elles ont de bons résultats et qu'elles sont moins exposées, par exemple, que les banques allemandes. Moody's confirme aussi que les profils financiers solides des banques françaises peuvent contrebalancer les inquiétudes liées à la Grèce.
Ça dit une question qui n'est pas forcément subsidiaire. Elles ont spéculé, les banques françaises, depuis le début de la crise grecque en accordant des crédits à 11, 12, 13, 14%?
Plus personne, en fait, ne spécule sur la dette grecque depuis que l'on a découvert il y a un an et demi l'énormité du déficit du pays. Et les assurances, pour se protéger contre les défauts de paiement de la Grèce, les CDS en langue financière, sont tellement élevée que les spéculateurs y regardent à deux fois avant de s'engager.
Philippe Roy-Contensin, merci beaucoup pour ces explications. Évidemment, on peut en reparler au 3210.
Et on ajoute que le gouvernement a fait savoir il y a quelques minutes qu'il n'est pas inquiet du tout du placement sous surveillance des trois banques en question. On entendra d'ailleurs le porte-parole du gouvernement, François Baroin, à 13h.
Cela dit, les Grecs n'ont pas franchement la tête à rembourser pour l'instant leurs créditeurs. Hein. On le comprend, ils sont dans la rue, en grève générale, pour protester contre le nouveau plan d'austérité de leur gouvernement. Encore 28 milliards d'économies à faire, avec aussi des hausses d'impôts à la clé. Ça ne passe pas, Alexia Kefalas. Bonjour, vous êtes à Athènes pour RTL. Dans les manifestations ce matin, on se demandait clairement où est passé l'argent de l'aide internationale. De là à dire d'ailleurs que les dirigeants les ont mis dans leur poche, les dirigeants grecs, il n'y a qu'un pas qui a été d'ailleurs franchi devant le Parlement, je crois. Hein.
Ils sont des milliers à défiler dans les rues d'Athènes depuis l'aube ce matin. Des indignés sont rassemblés devant le Parlement et n'aiment pas les préjugés sur les Grecs. C'est le cas de Manolis, un jeune diplômé de 34 ans au chômage.
On n'est pas d'accord, nous ne sommes pas fainéants. On n'est pas d'accord avec les nouvelles mesures de rigueur qui piétinent les droits des Grecs et des Européens. On veut la parole, la vraie démocratie.
Les indignés ont très vite été rejoints sur la place de la Constitution par les cortèges des syndicats, du public et du privé, satisfaits de voir que la grève a massivement été suivie. Au moment même où les députés, entrés par des issues de secours, ont commencé à débattre du nouveau plan de rigueur. Pour Despina, la quarantaine, c'en est trop.
On veut sortir de l'Europe. On ne va pas les laisser vendre nos biens. On combattra, même dans le sang. Moi, je me battrai jusqu'au bout. Et s'il faut mourir, je préfère le faire héroïquement.
Malgré les gaz lacrymogènes lancés par des milliers de policiers, manifestants et indignés sont bien décidés à ne pas partir de la place tant que le plan de rigueur ne sera pas retiré.
Et ça, c'est pas demain, parce qu'on connaît les pressions mises par les Européens, Elisabeth, et aussi par le FMI. C'était Alexia Kefalas, donc en direct d'Athènes pour RTL. Est-ce que cette crise grecque vous inquiète? On peut évidemment en parler au 3210.
Une information pratique. Depuis 7h30 ce matin, du retard au décollage à Orly, les avitailleurs qui alimentent les avions en kérosène sont en grève. Aucune annulation n'est envisagée pour l'instant, mais vous pouvez appeler avant d'aller à l'aéroport si vous avez une inquiétude. Et voilà l'apprentissage des 14 ans qui repointe son nez. Souvenez-vous de de Villepin. Alors, Premier ministre l'avait proposé avant de reculer face à la polémique. 14 ans, c'est trop tôt. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, on le rappelle. Elle lui avait rappelé d'ailleurs, eux, les syndicats, les parents d'élèves et toute la gauche en cœur. L'idée revient à l'Assemblée sous la forme d'un amendement à la loi d'apprentissage qui est en cours d'examen. Elle permettrait, avant 15 ans, de devenir apprenti. Le député UMP du Maine-et-Loire, Jean-Charles Taugourdeau, est l'auteur de cette proposition et il la défend.
Baisser l'âge du début de l'apprentissage. D'abord, on veut revaloriser l'apprentissage. Un bon élève peut avoir 14 ans et demi en fin de troisième. Il doit pouvoir faire le choix, s'il le souhaite, d'intégrer une filière apprentissage avant la fin de l'année civile, s'il a 15 ans dans le deuxième semestre de cette année-là. C'est ce qu'on dit dans notre amendement, c'est-à-dire qu'on régularise quelque chose qui se pratiquait par dérogation. On sécurise législativement ces conditions. Bien sûr que non, c'est pas la fin de la scolarité jusqu'à 16 ans. Ça peut être l'école le matin, l'apprentissage l'après-midi. Enfin, toutes les pistes sont ouvertes. Je pense qu'il faut, innover dans ce domaine et permettre à un jeune qui veut apprendre un métier à l'apprendre. C'est pas une obligation, c'est un choix.
Voilà, c'était Jean-Charles Taugourdeau, donc, qui est l'auteur de l'amendement déposé. On va en reparler de cela, évidemment, avec le directeur de l'Union des familles, des maisons familiales rurales, pardon. Il sera notre invité à 12h50. Il accueille notamment des gamins, hein, parce qu'on est jeune quand même à 15 ans, en apprentissage ou en alternance, en l'occurrence.
Un mot de la revalorisation du SMIC, annoncée initialement pour juillet. Elle est reportée parce que les prix à la consommation sont restés stables en avril. C'est ce qu'indique le ministère du Travail. Elle devrait finalement intervenir début août.
RTL Midi, il est 12h39.
Dans un instant, Haro sur ces charlatans qui vous font croire que le cancer se soigne ou peut se soigner sans médicaments.
RTL Midi, 12h41, Elisabeth Martichou, Laurent Bazin.
Attention, charlatan, et le mot est sans doute faible. C'est la mission de lutte contre les dérives sectaires qui lève le lièvre dans son rapport annuel. On vous en parlait sur RTL dès ce matin. Elle s'attaque à ces faux gourous, disons plutôt à ces pseudo-psychologues qui font fortune sur le dos des malades du cancer. Ceux qui vous disent qu'il faut arrêter de se soigner, que votre maladie est psychologique, qu'elle est spirituelle, due à un traumatisme d'enfance parfois, ou alors que votre cancer est en fait une guérison. On n'invente rien, il y en a vraiment qui professent ça. Écoutez le patron de la Miviludes, Georges Fenech, au micro de Dominique Tenza.
Ça peut prêter à sourire hein, quand on vous propose pour soigner votre cancer d'absorber vos propres urines, hein, c'est de l'urinothérapie, ou de suivre une cure de jus de légumes pendant 42 jours. Ça prêterait à sourire, sinon que ça peut toucher des personnes vulnérables, en position de grande fragilité, de crainte face à la maladie telle que le cancer, et qui peuvent se laisser abuser par ces charlatans de la santé, abandonner leur traitement, c'est ça qui est le plus grave, et se retrouver dans une situation catastrophique avec, malheureusement, on en a vu ici à la Miviludes, des décès. Bon, ces charlatans sont des pseudo-psychothérapeutes, si vous voulez, autoproclamés, qui n'ont pas de formation, de diplôme. Internet a complètement démultiplié le phénomène. Néanmoins, il est vrai que, de manière marginale, on a quand même des cas de médecins hein, qui sont tombés là-dedans ou qui se font radier du Conseil de l'Ordre des médecins pour pouvoir exercer ces pratiques non conventionnelles hein, à visée thérapeutique. Ça existe aussi, oui.
Voilà, Georges Fenech, qui sera l'invité de Jacques Pradel, d'ailleurs, à partir de 14h. On reparlera donc de ces charlatans. On parlera aussi des millénaristes, puisqu'il paraît que c'est à nouveau la fin du monde en décembre 2012.
Attention. Une ancienne star de l'antiterrorisme, Jean-Louis Bruguière, poursuivi par les familles des victimes de l'attentat de Karachi. Elles ont déposé plainte pour faux témoignages et entraves contre l'ancien juge. Elles le soupçonnent d'avoir gardé sous le coude un rapport de médecin légiste qui discréditait la piste Al-Qaïda, thèse à laquelle a toujours cru le juge Bruguière.
La surprise des gardiens du château de Versailles à l'ouverture ce matin à 8h30, ils ont retrouvé le cadavre d'une femme dans l'un des bassins du parc. La noyade semble exclue, il y a très très peu d'eau dans ces bassins. Le corps ne porte par ailleurs pas de traces apparentes de violence, mais une autopsie est en cours.
Alors on ne va pas encore parler de renversement de tendance, c'est trop tôt, mais quand même ça frémit. Plus d'une centaine de médecins fraîchement diplômés sont allés s'installer à la campagne l'an dernier, alors que vous le savez, depuis une dizaine d'années, eh bien, les jeunes docteurs fuient les zones rurales, on ne trouve parfois pas de généralistes à 50 km à la ronde. Alors on signale au passage qu'un quart de ces nouveaux médecins font le choix de la campagne, ils ont un diplôme étranger. Stéphane Fraisse, c'est pas son cas, lui il avait commencé sa carrière à Strasbourg, mais très vite il a fait choix de la Dordogne. Il a ouvert son cabinet dans un petit village de 1300 habitants, Hautefort. Pourquoi ce choix, docteur ?
Ça a été la combinaison à la fois d'un choix personnel, de trouver un peu d'espace, un peu de calme, un peu de vert par rapport à l'ambiance citadine, et puis d'un choix professionnel avec des conditions d'exercice qui m'attiraient et que je trouvais beaucoup plus stimulantes que l'exercice urbain. Une relation avec les patients qui me semble, moi, globalement beaucoup plus respectueuse, inscrite dans la durée, beaucoup moins, on va dire, consumériste. Et puis un exercice beaucoup plus varié. Je continue à faire des tas de choses que beaucoup de médecins urbains ne font plus. Je fais pas mal de petites chirurgies, de la gynécologie, de la pédiatrie, des urgences. Enfin, c'est des choses que je trouve stimulantes. Tout n'est pas absolument rose. La charge de travail reste quand même relativement importante. Ça, il ne faut pas se leurrer. Après, il reste les contraintes. Le cinéma le plus proche qui est à 30 minutes. Le conjoint qui n'a pas toujours la possibilité de trouver un métier, et ça, c'est pas évident non plus, donc ça, il faut pas le nier.
Voilà, vous avez vu revenir un médecin généraliste près de chez vous. Il y en a une centaine, évidemment, ça fait un peu une aiguille dans une botte de foin. Oui. Mais enfin, peut-être que quand même, vous êtes privilégié, vous nous appelez. Ce médecin, docteur Fraisse, était au micro RTL de Frédéric Prabono.
Et si le chéquier magique du PSG continue à faire des miracles, certains en rêvent, évidemment, à Paris, après l'achat de Gamero, on dira à prix d'or, c'est combien, Christian Olivier, 12 millions
11 millions plus 4 de bonus, donc, ça donc fait 15 millions au total.
Ça fait 15.
Bonjour à tous.
Bonjour à vous. On murmure maintenant que le club pourrait s'offrir Leonardo, pas n'importe qui, ancien joueur du PSG, entraîneur actuel brésilien de l'Inter de Milan, rien que ça, pourrait devenir le manager général du club, Christian.
Alors ce qu'on sait, c'est que l'homme qui est au cœur de ce dossier, effectivement Leonardo, a été contacté il y a un mois et demi avant même le rachat du club parisien par le Qatar. Il était dans le golf samedi dernier, c'est sûr, et il a donc vu le prince héritier, qui est le nouveau propriétaire du Paris Saint-Germain. Depuis, ça c'est sûr également, Leonardo est rentré au Brésil, il attend désormais la réception d'un protocole d'accord sous forme de contrat. Ce qu'on sait également, c'est que l'entraîneur du PSG, Camboire, a été reçu dimanche, toujours par le prince héritier, et hier, c'était le tour de Robin Leproux.
Ça se bouscule au Qatar. Qu'est-ce qu'on lui propose ? Qu'est-ce qu'il va faire au PSG ?
Ce qui est en train de se négocier, c'est évidemment le rôle des uns et des autres. Pour commencer, celui du nouvel homme fort, Leonardo, dans un rôle de directeur général, de DG du club parisien, opérationnel sur le sportif, l'économique, les transferts et les investissements. Dans ce cas de figure, quid de la marge de manœuvre de Robin Leproux, qui n'est pas homme à jouer les marionnettes ? C'est ce qui se joue actuellement à Doha, la capitale du Dakar. Quid également de Camboiré, l'entraîneur, et surtout quid de la cellule de recrutement dirigée par Alain Roche, l'ancien partenaire de Leonardo entre 96 et 97 sous les couleurs du Paris Saint-Germain.
Oui, l'avenir du PSG de Paris qui joue au Qatar, ça c'est quand même une première, très intéressant. Sportivement, Leonardo, ça donnerait quoi son arrivée, un booster ?
Oui, évidemment. Et les conséquences sportives, c'était aussi ce qu'il y a de plus important aux yeux des supporters du Paris Saint-Germain. Le Qatar espère compter sur le carnet d'adresse de Leonardo. On parle des nouvelles petites merveilles du foot brésilien. Successeurs annoncés des Ronaldo, Ronaldinho, retenez bien leurs noms, Neymar, Ganso, Lucas, sont également cités dans la boucle des transferts, Drogba, Eto, etc. etc.
Eh ben, dis donc.
Enfin, l'actualité du Paris Saint-Germain, ce sera sans doute le feuilleton de l'été sur l'antenne de RTL.
Il faudra plus de 50 chèques pour payer tout ça.
Un seul chèque n'y suffira pas.
Merci Christian Olivier. Leonardo annoncé au PSG, 32-10. Ne soyez pas surpris si vous trouvez que la lune ce soir est étrange, un peu bizarre, mais belle. Une lune rouge. La Terre va passer pile entre le soleil et la lune. Hein, je parle sous votre contrôle,
tout
car on l'apporte Mani. Et autrement dit, la lune, du coup, eh bien, elle va, la Terre va lui faire de l'ombre. C'est
voilà.
Bien ça, hein.
C'est exactement.
J'ai bien compris.
Ça.
Bon, d'accord. Ce sera en tout cas.
Elles seront alignées.
Voilà, elles seront alignées. Ce sera visible à l'œil nu, sans lunettes. Hein. C'est pas le soleil qu'on regarde, c'est la lune. Carole, il faut pas rater le spectacle. On l'a dit, ça va être très beau.
Oui, lever de rideau vers 22h. Hein. Il faudra regarder à l'horizon vers le sud-est. Quand la lune va se lever, en fait, l'éclipse aura déjà commencé. La lune ne sera plus éclairée par le soleil, mais elle ne sera pas complètement éteinte. Elle va prendre, vous l'avez dit, une teinte cuivrée, plus ou moins rouge. En fait, on ne peut pas prévoir exactement la couleur que l'on verra, explique Patrick Rocher, astronome à l'Observatoire de Paris.
Ça dépend un petit peu de la nature de l'atmosphère et de la distance Terre-Lune. Alors ça, c'est quelque chose qui est très difficile à prévoir. Des fois, on pense que ça va être très cuivré et ça ne l'est pas, donc c'est la surprise. C'est un petit peu comme un coucher de soleil. Il y a des soirs, les couchers de soleil, c'est très rouge, puis il y a d'autres soirs, c'est moins rouge. C'est exactement la même chose.
Alors, à partir de 23h, vous pourrez voir la Lune sortir de l'ombre de la Terre. On verra d'abord un petit bout de Lune bien brillant qui réapparaît. Et à minuit, la totalité de la Lune aura repris ses habits de lumière. Un conseil pour bien l'observer, essayez de vous mettre sur une petite butte, car le spectacle a lieu quand même assez bas sur l'horizon. C'est pas facile en région parisienne ou dans les grandes villes. Et puis, ouvrez grand les yeux. Vous l'avez dit, pas besoin de lunettes de protection. Vous n'observez pas directement le soleil. Donc, vous ne risquez rien. Pas besoin non plus de lunettes, de jumelles, de télescopes. À l'œil nu, vous verrez le spectacle très, très bien. Et si vous le ratez, eh bien, la prochaine éclipse totale de lune aura lieu le 10 décembre.
Deux fois par an. Vous l'avez
voilà.
Dit. Merci Carole Laporte-Mani, évidemment, si vous avez des souvenirs de lune. Si vous, parfois, vous savez que la lune, elle a de l'influence, nous dit-on. Elle a de l'influence sur nos humeurs, sans commentaire. Ou sur, d'ailleurs, autre chose, sur, on a dit le sommeil, mais sur la pilosité, par exemple, etc. Bref, vous avez des souvenirs de lune rouge et vous êtes dépendant de la lune, vous nous appelez. Je ne sais pas si je vais arriver à finir.
Si.
Au 32-10.
C'est toujours tout droit.
RTL Midi, 12h49.
L'apprentissage des 14 ans, est-ce que c'est une bonne idée? On en parle avec notre invité ce midi, Jean-Claude Denis. Il est directeur de l'Union des maisons familiales rurales.
RTL 12h51, l'invité de RTL Midi.
Et ce midi, on parle apprentissage avec Jean-Claude Denier. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'Union des maisons familiales rurales qui accueille notamment des jeunes en apprentissage, mais pas seulement, on va en parler ensemble. Vous avez entendu tout à l'heure ce député UMP qui veut qu'on puisse signer un contrat d'apprentissage dès 14 ans et demi. L'idée, c'est que finalement, il vaut mieux apprendre un bon métier que de stagner, voire de mal tourner à l'école. C'est une idée idiote.
Non, je pense qu'effectivement, et beaucoup de jeunes aujourd'hui aspirent à se sentir valorisés et ont envie de se sentir utile, d'être actifs. Et le milieu professionnel peut leur permettre de découvrir leurs talents. Est-ce que pour autant ils sont prêts à signer un contrat de travail? Parce que l'apprentissage, c'est d'abord un contrat de travail.
Un contrat de 3 ans, c'est
ça? Un contrat de 2 ans ou 3 ans, ouais. Selon les formations. Mmh. Dans la plupart des cas, c'est 2 ans. Est-ce qu'ils sont prêts pour autant à signer un contrat de travail, à choisir une entreprise et à choisir un métier? C'est loin d'être sûr. Mmh. Donc il convient de permettre au plus grand nombre de jeunes de vivre des expériences en entreprise, de découvrir ce qu'ils peuvent faire à travers des séjours en alternance. Mais le plus souvent, me semble-t-il, à cet âge-là, à 14 ans, sous statut scolaire et non pas sous contrat de travail. D'abord, la question qu'il faudrait se poser, est-ce que les entreprises sont prêtes à embaucher des jeunes, puisqu'il s'agit bien d'une embauche, de jeunes à 14 ans. On peut en douter.
Donc, éloge de l'alternance, l'apprentissage, mettre les garçons dès 14 ans, 15 ans, dans le grand bain d'un métier, d'une profession, c'est trop tôt?
Alors, Non, d'abord, il faut savoir, il n'y a pas que des garçons, il y a aussi des filles.
Oui, absolument. On pense souvent aux apprentis, il y a beaucoup de filles, vous avez raison.
Il faut savoir que le contrat d'apprentissage est ouvert aux jeunes, soit lorsqu'ils ont 16 ans, soit lorsqu'ils ont fini leur scolarité au collège. Or, je rappelle qu'un jeune, s'il n'a jamais redoublé, quand il sort d'une classe de 3e, qu'il a fini sa scolarité au collège, qu'il a eu une brevet national, donc qu'il a acquis le socle de compétences, ce jeune a 15 ans en général. Il peut même avoir 14 ans et 9 mois. Ce que prévoit la loi qui est en discussion au Parlement, c'est que les jeunes, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, les jeunes de 15 ans et qui sortent d'une classe de 3e peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, et ceux qui seraient nés en fin d'année pourraient le faire également. Aujourd'hui, on a un paradoxe. Un jeune qui a 15 ans, qui sort de 3e, et qui aura 15 ans au mois de novembre, au mois de décembre, on lui dit, bien sûr, tu peux rentrer en apprentissage, mais tu ne signeras ton contrat qu'à la date de ton anniversaire. Résultat, pendant 2 ou 3 mois, il est sans statut, il ne rentre pas
dans... Il est dans la nature ?
Il risque d'être dans la nature.
Ah, oui.
Il risque d'être dans la nature. Donc ça,
c'est pour faire le joint.
Il ne peut pas y avoir de gagnant à un tel système.
Je suis assez frappé par ce que vous dites, Jean-Claude Denier, parce qu'à la fois vous dites c'est trop tôt pour être dans le grand bain professionnel à 100%, on va dire ça comme ça, et en même temps, vous nous racontiez tout à l'heure en préparant cette interview qu'il y avait une demande, c'est-à-dire que dans vos 400, pardon, sous votre contrôle, 20, 25, 430 maisons familiales rurales, vous refusez du monde, il y a des gamins qui voudraient bien.
Il y a beaucoup
très
de jeunes.
Tôt, 14 ans, travailler, être mécano, boucher, maçon, agriculteur.
Il y a beaucoup de jeunes à 14 ou 15 ans qui aspirent à autre chose que ce que leur offre le collège, à savoir rester dans une salle de cours et écouter le maître. Il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de se sentir valorisés, de faire quelque chose de leurs mains, de découvrir leur talent en fait. Certains ont des talents qui s'expriment fort bien dans le système scolaire classique, d'autres ne s'y révèlent pas et petit à petit perdent l'estime d'eux-mêmes. Or, ce qui compte à cet âge-là, c'est au contraire être en projet, avoir envie d'aller plus loin. Et l'alternance...
Mais ne pas s'enfermer, voilà ce que vous êtes en train de dire finalement.
Alors, je crois
pas d'apprentissage parce qu'il ne faut pas s'enfermer.
Je pense qu'il faut toujours être prudent sur des généralisations. Certains jeunes à 14 ans et demi, 15 ans, peuvent avoir une idée très précise, peuvent, par leur entourage familial, avoir eu l'occasion de découvrir ce qui est un petit peu leur vocation. Ça serait dommage de ne pas permettre à ces jeunes-là d'aller au bout de leur projet. D'autres, bien au-delà de 15 ans d'ailleurs, à 16, 17 ou 18 ans, n'ont pas une idée très très précise de ce qu'ils veulent faire, connaissent très mal le milieu du travail, et c'est là où il est tout à fait intéressant d'avoir des périodes qui fassent le sas entre l'école, traditionnel, le collège ou le lycée d'ailleurs, et puis la signature d'un contrat d'apprentissage, des périodes pendant lesquelles on puisse aller en entreprise, découvrir des métiers, et puis en même temps être accompagné dans son projet, et qui permettent de choisir en connaissance de cause.
Autrement dit, Jean-Claude Denier, c'est pas parce qu'un gamin de 14-15 ans, c'est pas méchant, un gamin c'est affectueux, que de 14-15 ans dit je veux plus à l'école, je veux entrer en apprentissage, pour autant est-ce qu'il faut lui dire oui à chaque fois? Est-ce qu'il aura, 14 ans c'est tôt, hein, après on travaille toute sa vie.
Non, je pense que d'abord... Il n'est pas question de mettre des jeunes de 14 ans en apprentissage.
Disons 15 ans. Ils expriment le vœu à 14 ans et demi et ils y sont à 15 ans.
C'est ce qui est le cas aujourd'hui. C'est ce que permet la loi à partir du moment où il a fini sa scolarité au collège. Hein, qu'on s'entende bien.
Oui.
Un jeune qui n'aurait pas fini sa scolarité
après
au collège...
Après la troisième, d'accord, c'est
il
clair.
Il est hors de question qu'il rentre en apprentissage. Pour une raison très simple d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas forcément l'entreprise qui l'embaucherait. Parce que pour lire une instruction, pour comprendre un mécanisme, il faut quand même avoir des connaissances qui permettent de se débrouiller, tout simplement, dans le monde du travail.
Vous, à quelles conditions, c'est ça la question, hein, vous acceptez que ces grands garçons ou ces grandes filles deviennent apprentis à 15 ans ? Ou un petit peu avant.
Avant, non, je vous le répète, il faut qu'ils aient fini leur classe de 3e.
Dans l'état actuel
donc,
des textes.
Dans l'état actuel des choses, d'abord qu'ils aient un projet qui ait pu être confirmé. C'est-à-dire qu'on souhaite toujours qu'un jeune, avant de signer un contrat d'apprentissage, puisse, et c'est possible en maison familiale grâce au 3e par alternance, puisse confirmer son souhait professionnel en passant quelques semaines dans une entreprise du secteur dans lequel il veut se destiner. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, vérifier qu'il a les aptitudes nécessaires, qu'il sera en mesure de comprendre les fondamentaux du métier qu'il aura et puis choisir la qualification qu'il vise. N'oublions pas qu'après la classe de 3e, on peut préparer un CAP en 2 ans ou on peut préparer un bac professionnel en 3 ans. Donc ces jeunes-là peuvent accéder au baccalauréat, peuvent au-delà s'engager dans des formations de techniciens supérieurs et au-delà même, s'ils en ont l'ambition et les capacités, vers des licences professionnelles ou des formations que développe l'université.
En tout cas, on comprend dans ce que vous êtes en train de nous expliquer depuis tout à l'heure, ne pas s'enfermer dans un contrat, et par exemple dans un contrat d'apprentissage quand on est trop jeune ou considéré comme tel, notamment par un employeur. Merci Jean-Claude Daignet d'avoir été avec nous pour nous l'expliquer. Évidemment, c'est un sujet, on le pressent, on l'espère en tout cas, sur lequel les auditeurs d'RTL auront envie de se prononcer, parce qu'il y a aussi le regard qu'on porte sur les métiers manuels qui sont souvent dévalorisés et qui pourtant sont porteurs d'emploi. 3210 si vous voulez en parler. Jean-Claude Daignet, c'était le directeur de l'Union des maisons familiales rurales. Merci à lui.
Il est 13h. RTL Midi,
12h30, 14h, Laurent Bazin, Elisabeth Martichoux.
Dans une dizaine de minutes, vous avez la parole au 32-10. N'hésitez pas, ce qui monte en ce moment au standard, entre autres, c'est cette proposition d'un député UMP de permettre une entrée dans l'apprentissage à partir de 15 ans et même avant, à partir du moment où on a fini sa classe de 3e. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est trop tôt?
J'étais nul à l'école, enfin nul. Je me comprends. Je savais que je ne pouvais pas être avocat, ni. Parce que d'aller 2 ans à l'école de plus, ça, pour apprendre quoi? Rien, parce que j'étais nul. Bon, puis l'école ne m'intéressait pas, de toute façon. Moi, ce que je voulais, c'est faire un métier, travailler, avoir quelque chose de concret. Bon, à 14 ans, je suis parti en apprentissage et je suis routier maintenant, chauffeur international.
Voilà un exemple. Évidemment, on est intéressé d'en avoir d'autres au 32-10. Hein. Vos enfants aussi en ont assez de l'école académique, veulent entrer dans la vie professionnelle très tôt, alors qu'ils sont à peine à la fin du collège. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Quelles sont pour l'instant les solutions? Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'ils aient un contrat d'apprentissage dès la fin de la 3e? 32-10.
L'actualité, on vient de l'apprendre, c'est l'attaque d'un dépôt de fonds à l'explosif. C'est un dépôt de fonds de la société Loomis qui a été attaqué à Villers-Semeuse dans les Ardennes par 5 comme armé et cagoulé. Le parquet de Charleville-Mézières fait savoir qu'ils ont sans doute emporté un butin conséquent. L'actualité, ce sont aussi les banques françaises prises dans le tourbillon grec. La BNP, la Société Générale et le Crédit Agricole sont sous la menace d'une dégradation de leurs notes par l'agence de notation Moody's. Toutes comptent l'État grec parmi leurs débiteurs. La Société Générale, par exemple, possède 5 milliards d'euros, en particulier d'obligations émises par la Grèce. Est-ce que ça inquiète le gouvernement? Pas du tout. Écoutez le porte-parole, François Baroin.
Non, l'agence Moody's met sous surveillance. Ça ne nous inquiète pas, il y a des positions françaises là-bas. La même agence explique d'ailleurs que ça n'implique pas une dégradation de la notation. Et la même agence indique d'ailleurs que ce serait une dégradation limitée. Les banques françaises, vous le savez, sont parmi les grandes banques internationales les mieux notées actuellement, les plus solides. Elles ont résisté à tous les tests internationaux. Moody's a même signalé que le business model fondé sur des profils financiers solides de ces banques permettait, avec la taille de ces banques, d'absorber les chocs et la diversification de leurs sources de revenus. Nous ne sommes pas inquiets.
François Baroin, donc, pas inquiet au micro RTL de Jérôme Florin. Est-ce que malgré tout vous craignez pour les banques françaises? Est-ce que d'une manière générale, d'ailleurs, la situation de Grèce, vous savez que les Grecs sont en grève générale aujourd'hui, risque d'impacter la situation européenne et notamment l'euro? On en parle, si vous le souhaitez, au 32-10.
On peut aussi évoquer cette prime pour les salariés, la prime dividende qui sera versée par les entreprises qui augmentent précisément les dividendes à partir de 50 salariés. Le MEDEF, mais aussi la gauche et les syndicats, ils sont hostiles. Cette prime est hypothétique, disait ce matin le patron de la CGT chez Jean-Michel Apathy. Le Parti Socialiste parle d'une prime fantôme. Et vous, est-ce que vous y croyez à cette prime Sarkozy? Est-ce que vous l'attendez? 32-10.
Attention, si vous prenez l'avion aujourd'hui au départ de Paris-Orly, les vols accusent, certains vols en tout cas, un retard qui peut aller jusqu'à 45 minutes à la suite d'une grève des avitailleurs. Les salariés de l'une des deux entreprises qui fait le plein des avions a en effet débrayé ce matin.
L'actualité, c'est aussi aujourd'hui la dernière ligne droite du procès Colonna. Après 6 semaines d'audience, le réquisitoire a commencé tout à l'heure, Chloé Triomphe.
Oui, ce matin, l'un des deux avocats généraux a commencé le réquisitoire prévu pour durer toute la journée et qui va se terminer sur la demande de peine pour Yvan Colonna. Et Alexandre Plantevin a commencé par souligner le temps qui est passé depuis l'assassinat du préfet Erignac. 13 ans et 4 mois. 13 ans qui, selon le ministère public, ont bien davantage servi à Yvan Colonna qu'à faire avancer la vérité et la justice. Ces 13 années dit-il, ont servi à l'accusé pour déplacer le débat, pour substituer la douleur de la famille de la victime à celle d'un homme injustement accusé. 13 ans plus tard, insiste-t-il, les témoins sont décédés, d'autres ne veulent plus rien dire. Pourtant, rappelle-t-il encore, il y a ces hommes du commando et leurs femmes qui ont accusé Colonna. Il y a 13 ans, des Corses qui ont accusé un autre Corse. Une réalité qui démontre, selon lui, la tentation de vouloir fustiger une justice coloniale aux ordres de l'État que la défense ne cesse de dénoncer. Pour l'accusation, vous l'aurez compris, il n'y a donc aucun doute sur la culpabilité d'Ivan Colonna. La seule question qui reste en suspens jusqu'aux réquisitions de peine cet après-midi est la peine de sûreté, demandée ou non. La défense aura ensuite la parole pendant 2 jours avant un verdict prévu lundi prochain.
Chloé Triomphe, donc, au palais de justice de Paris, auprès de la cour spéciale qui juge en ce moment Ivan Colonna. On peut aussi revenir sur ces accusations de la Miviludes dont on parlait tout à l'heure, contre ceux que Georges Fenech appelle les charlatans du cancer. La mission de lutte contre les dérives sectaires s'inquiète de ces gourous, disons, de ces psychothérapeutes, parfois d'anciens médecins ou des médecins, qui poussent les patients à abandonner les traitements et en choisir d'autres, disons, de médecine alternative, parce que leur mal serait finalement psychologique ou spirituel. Si vous avez envie de témoigner, si vous avez des histoires à nous raconter, n'hésitez pas. 32-10.
On peut parler du divorce annoncé entre l'OL, l'Olympique Lyonnais, et son entraîneur Claude Puel. La procédure suit son cours. En fait, l'audience de conciliation organisée ce matin à la Ligue nationale à Paris n'a pas abouti. C'est pas une surprise. C'était obligatoire. En fait, c'est la procédure. Dans les jours qui viennent, l'OL va envoyer à Claude Puel une lettre recommandée pour lui signifier la rupture anticipée de son contrat. Le club pourra peut-être enfin annoncer le nom du futur entraîneur, sans doute Rémi Garde. 32-10. Qu'en pensez-vous, Rémi Garde, vous, les Lyonnais?
On peut évoquer le chéquier en or du PSG aussi. On en parlait tout à l'heure avec Christian Olivier. Après Gamero, Paris s'attaque à un gros morceau. Il tente de décrocher Leonardo. Et tout ça passe, on l'a compris, par le Qatar. C'est assez étonnant que l'avenir d'un club parisien passe par le Qatar. On peut en parler de cela au 32-10. On dit souvent que dans le foot, l'argent est roi. Est-ce que ça suffira à faire une équipe l'an prochain? Ça aussi, une question qu'on vous pose.
À la Bourse de Paris, justement, on parle d'argent. Réaction évidemment négative à la mise sous surveillance des banques françaises à cause de la crise grecque. Bonjour Frédéric Villot.
Bonjour,
des
Elisabeth.
Échos. Ça baisse,
c'est,
hein.
C'est exactement ça. On est un petit peu dans le rouge, tiré par les valeurs bancaires, et ça aurait pu être pire que ça quand même, hein. Mais pour l'instant, l'agence financière Moody's a juste menacé de baisser la note des 3 plus grandes banques françaises à cause de leur exposition au problème de la Grèce. Alors naturellement, les investisseurs se montrent très prudents. En plus, les chiffres de la production industrielle et de l'inflation en France ne sont pas extraordinaires. Alors à la mi-journée, le CAC 40 recule maintenant de 0,4% à 3849 points. Du côté des valeurs, la plus forte baisse est naturellement pour Société Générale, moins 2%. Société Générale qui serait plus exposée que les autres grandes banques françaises à la Grèce et dont la note pourrait baisser de 2 crans au lieu d'un cran pour BNP Paribas et pour Crédit Agricole qui perdent de leur côté autour d'1,5%. Carrefour, pour sa part, recule de 1,7% après sa condamnation pour non-respect du SMIC auprès d'environ 1200 salariés. Carrefour va faire appel de ce jugement et de sa condamnation à plus de 3 millions d'euros d'amende. Et puis dans le vert, on trouve EADS notamment, qui gagne 1,2% au moment où le gouvernement fait pression sur Air France pour que la compagnie achète des Airbus et pas des Boeing. Sur le marché d'échange, l'euro redescend vers les 1,43 $ et le pétrole est en baisse également à 98,60 $ le baril à New York.
Merci Frédéric Villot des Échos. On vous retrouve à 17h avant la clôture.
Monsieur Louis Baudin.
Oui.
Alors aujourd'hui, ça s'est légèrement découvert.
Un petit peu, temporairement. Petit peu. Profitons-en.
Ça va durer?
Non.
Ça va se recouvrir.
Parce que voilà, une perturbation est en train de revenir cet après-midi dans le nord-ouest. Et puis demain, elle va poursuivre son chemin. Donc au lever du jour, on la retrouvera dans la moitié ouest. Alors comme elle apportera de l'air froid au contact de l'air chaud qui est dans l'est, vous l'avez compris, ça va dégénérer avec donc une évolution orageuse possible. Beaucoup de pluie attendue, hein, au passage de cette perturbation. Donc la chronologie, c'est le matin dans la moitié ouest, en fin de matinée, milieu de journée dans le centre, des Pyrénées à l'Île-de-France et à la frontière belge, et l'après-midi dans la moitié est. Elle sera suivie de ce qu'on appelle un ciel de traîne avec quelques éclaircies, mais encore des averses parfois accompagnées d'orages, donc beaucoup d'activité, sauf tout près de la Méditerranée où avec un peu de chance vous passerez au travers. Du coup les températures vont baisser, nous reviendrons à des valeurs de saison entre 20 et 21 degrés dans la moitié nord, donc ce sera assez désagréable. Dans le sud, autour de 25 degrés. Pour la journée de vendredi, nouvelle accalmie, sauf en montagne où on aura encore quelques orages. Et puis dans le nord-ouest, on attendra la perturbation suivante qui samedi traversera touchera toute la France, hein, y compris le sud, sauf le littoral méditerranéen. Du coup, vendredi, avant la perturbation, les températures vont remonter, elles baisseront samedi. Dimanche, nouvelle amélioration au sud de la Loire, parce qu'au nord, ça sera encore un peu mitigé, avec des passages nuageux, des éclaircies et des averses. Puis pour le début de semaine, ça continue. Au nord de la Seine, plutôt quelques averses. Au sud, ça devrait s'arranger. Donc on revient petit à petit à une situation classique. Mais alors surtout, côté précipitation, je vous le confirme, on va très rapidement repasser au-dessus des normales pour un mois de juin. Donc on ne va pas compenser évidemment les pluies manquantes des deux mois, notamment avril et mai.
Mais enfin, pour les cultures d'été, c'est bon.
Exactement, oui. C'est bon pour les cultures d'été.
C'est moins bien pour le pique-nique du week-end.
Ah oui, j'ai bien compris. Écoutez, il fallait en profiter il y a quelques semaines.
Pour tout est vrai.
Merci Louis Baudin. À demain.